France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Philosopher en marchant ou en chevauchant, cela est une activité intellectuelle et physique bien connue et très recommandée, surtout dans la littérature. Voyager en compagnie de son maître et chercher à le divertir en permanence est en soi un divertissement. On a dit « voyager en compagnie de son maître » et non « voyager en compagnie de son valet », ce qui signifie bien que le valet est le héros de l'œuvre de Diderot. Mais le titre même de l'œuvre l'affirme bien. Voyager, bavarder, philosopher et, comme le chemin est long, pour aller où, il faut des digressions. Il faut s'interrompre et être interrompu. Jean-Pierre Cassel et Jacques, Jean-Roger Cossimon est le maître. Voici le sixième épisode d'une adaptation de Jacques le Fataliste, épisode diffusé pour la première fois sur RTF Promotion, bientôt renommée France Culture, le 18 novembre 1963.
Bonjour monsieur.
Monsieur, bonjour.
Où en étions-nous donc restés la semaine passée ?
Vous aviez interrompu, monsieur, le récit des amours de Jacques.
Ah, si souvent interrompu déjà par le maître de Jacques, c'est à désespérer de le finir un jour. Croyez que je suis tout autant que vous affligé, auditeur.
Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot. Découpé par Roger Pilonin et réalisé par Henri Soubéran.
Jacques est toujours malade ?
Le cou entortillé d'un large mouchoir, sa gourde ci-devant pleine de bon vin, ne contenant que de la tisane. Toussant, jurant contre l'hôtesse qu'ils ont quittée et contre son vin de champagne. Ce qu'il ne ferait pas s'il se ressouvenait que tout est écrit là-haut, même son rhume. Ainsi, je vous conseille, auditeur, de prendre votre parti et, au défaut des amours de Jacques, de vous accommoder des aventures du secrétaire du marquis des Arcis.
Récit que nous avions entamé l'autre jour.
Dégoûté du monde à l'âge de 17 ans, Richard... C'est le nom de mon secrétaire. Se sauva de la maison paternelle et prit l'habit de Prémontré.
De Prémontré. Je lui en sais gré. Ils sont blancs comme des cygnes. Et Saint Norbert, qui les fonda, n'omit qu'une chose dans ces conditions.
D'assigner un vis-à-vis à chacun de ses religieux.
Si ce n'était l'usage des amours d'aller tout nu, il se déguiserait en Prémontré. Il règne dans cet ordre une politique singulière. On vous permet la duchesse, la marquise, la comtesse, la présidente, la conseillère, même la financière, mais point la bourgeoise. Quelque jolie que soit la marchande, vous verrez rarement un Prémontré dans une boutique.
C'est ce que Richard m'avait dit. Richard aurait fait ses vœux après 2 ans de noviciat si ses parents ne s'y étaient opposés. Son père exigea qu'il rentrerait dans la maison et que là, il lui serait permis d'éprouver sa vocation en observant toutes les règles de la vie monastique pendant 1 année, traité qui fut fidèlement rempli de part et d'autre. L'année d'épreuve sous les yeux de sa famille écoulée, Richard demanda à faire ses vœux. Son père lui répondit « Je vous ai accordé 1 année pour prendre une dernière résolution, j'espère que vous ne m'en refuserez pas une pour la même chose. Je consens seulement que vous alliez la passer où il vous plaira. » En attendant la fin de ce second délai, l'abbé de l'ordre se l'attacha. C'est dans cet intervalle qu'il fut impliqué dans une de ces aventures qui n'arrivent que dans les couvents. Il y avait alors à la tête d'une des maisons de l'ordre un supérieur d'un caractère extraordinaire. Il s'appelait le père Hudson. Le père Hudson avait la figure la plus intéressante. Un grand front, un visage ovale, un nez aquilin, de grands yeux bleus, de belles joues larges, une belle bouche, de belles dents, le sourire le plus fin, une tête couverte d'une forêt de cheveux blancs qui ajoutait la dignité à l'intérêt de sa figure. De l'esprit, des connaissances, de la gaieté, le maintien et le propos le plus honnête, l'amour de l'ordre, celui du travail, mais les passions les plus fougueuses, mais le goût le plus effréné des plaisirs et des femmes, mais le génie de l'intrigue porté au dernier point, mais les mœurs les plus dissolues, mais le despotisme le plus absolu dans sa maison. Lorsqu'on lui en donna l'administration, elle était infectée d'un jansénisme ignorant. Les études s'y faisaient mal, les affaires temporelles étaient en désordre, les devoirs religieux y étaient tombés en désuétude, les offices divins s'y célébraient avec indécence, les logements superflus y étaient occupés par des pensionnaires dissolus. Le père Hudson convertit ou éloigna les jansénistes, présida lui-même aux études, rétablit le temporel, remit la règle en vigueur, expulsa les pensionnaires scandaleux, introduisit dans la célébration des offices la régularité et la bienséance, et fit de sa communauté une des plus édifiantes. Mais cette austérité à laquelle il assujettissait les autres, lui s'en dispensait. Ce joug de fer sous lequel il tenait ses subalternes, il n'était pas assez dupe pour le partager. Aussi était-il animé contre le père Hudson d'une fureur renfermée qui n'en était que plus violente et plus dangereuse. Chacun était son ennemi et son espion. Chacun s'occupait en secret à percer les ténèbres de sa conduite. Chacun tenait un état séparé de ses désordres cachés. Chacun avait résolu de le perdre. Il ne faisait pas une démarche qui ne fût suivie. Ses intrigues étaient à peine nouées qu'elles étaient connues. L'abbé de l'ordre avait une maison attenante au monastère. Cette maison avait deux portes, l'une qui s'ouvrait dans la rue, l'autre dans le cloître. Hudson en avait forcé les serrures. L'abbatiale était devenue le réduit de ses scènes nocturnes et le lit de l'abbé celui de ses plaisirs. C'était par la porte de la rue, lorsque la nuit était avancée, qu'il introduisait lui-même dans les appartements de l'abbé des femmes de toutes les conditions. C'était là qu'on faisait des soupers délicats. Hudson avait un confessionnal et il avait corrompu toutes celles d'entre ses pénitentes qui en valaient la peine. Parmi ses pénitentes, il y avait une petite confiseuse qui faisait bruit dans le quartier par sa coquetterie et ses charmes. Hudson, qui ne pouvait fréquenter chez elle, l'enferma dans son sérail. Cette espèce de rapt ne se fit pas sans donner des soupçons aux parents et à l'époux. Ils lui rendirent visite. Hudson les reçut avec un air consterné. Comme ces bonnes gens étaient en train de lui exposer leur chagrin, la cloche sonne. C'était à 6 heures du soir. Hudson leur impose silence, ôte son chapeau, se lève, fait un grand signe de croix et dit d'un ton affectueux et pénétré « Angelus Domini, nunciavit Mariae ». Et voilà le père de la confiseuse et ses frères, honteux de leurs soupçons, qui disaient en descendant l'escalier à l'époux « Mon fils, vous êtes un sot. Mon frère, n'avez-vous point de honte? Un homme qui dit l'Angelus, un saint !» Un soir, en hiver, qu'il s'en retournait à son couvent, il fut attaqué par une de ces créatures qui sollicitent les passants. Elle lui paraît jolie, il la suit. À peine est-il entré que le guet survient. Cette aventure en aurait perdu un autre. Mais Hudson était homme de tête, et cet accident lui concilia la bienveillance et la protection du magistrat de police. Conduit en sa présence, voici comme il lui parla. « Je m'appelle Hudson. Je suis le supérieur de ma maison. Quand j'y suis entré, tout était en désordre. Il n'y avait ni science, ni discipline, ni mœurs. Le spirituel y était négligé jusqu'au scandale. Le dégât du temporel menaçait la maison d'une ruine prochaine. J'ai tout rétabli. Mais je suis homme et j'ai mieux aimé m'adresser à une femme corrompue que de m'adresser à une honnête femme. Vous pouvez à présent disposer de moi comme il vous plaira. » Le magistrat lui recommanda d'être plus circonspect à l'avenir, lui promit le secret sur cette aventure et lui témoigna le désir de le connaître plus intimement. Cependant, les ennemis dont il était environné avaient chacun de leur côté envoyé au général de l'ordre des mémoires où ce qu'ils savaient de la mauvaise conduite d'Hudson était exposé. Le général était janséniste et par conséquent disposé à tirer vengeance de l'espèce de persécution qu'Hudson avait exercée contre les adhérents à ses opinions. En conséquence, il remit les différents mémoires des faits et gestes d'Hudson entre les mains de deux commissaires qu'il dépêcha secrètement avec ordre de procéder à leur vérification et de la constater juridiquement, leur enjoignant surtout de mettre à la conduite de cette affaire la plus grande circonspection. Richard, mon secrétaire, fut un des deux commissaires. Voilà ces deux hommes partis du noviciat, installés dans la maison d'Hudson et procédant sourdement aux informations. Ils eurent bientôt recueilli une liste de plus de forfaits qu'il n'en fallait pour mettre 50 moines dans l'Inpace. Leur séjour avait été long, mais leur menée si adroite qu'il n'en était rien transpiré. Hudson, tout fin qu'il était, touchait au moment de sa perte qu'il n'en avait pas le moindre soupçon. Cependant, le peu d'attention de ces nouveaux venus à lui faire la cour, le secret de leur voyage, leur sortie tantôt ensemble, tantôt séparés, leur fréquente conférence avec les autres religieux, l'espèce de gens qu'ils visitaient et dont ils étaient visités, lui causèrent quelque inquiétude. Il les épia, il les fit épier, et bientôt, l'objet de leur mission fut évident pour lui. Il ne se déconcerta point. Il s'occupa profondément de la manière non d'échapper à l'orage qu'il menaçait, mais de l'attirer sur la tête des deux commissaires. Et voici le parti très extraordinaire auquel il s'arrêta. Il avait séduit une jeune fille qu'il tenait cachée dans un petit logement du faubourg Saint-Médard. Il court chez elle et lui tient le discours suivant.
« Mon enfant, tout est découvert et nous sommes perdus. Avant 8 jours, vous serez renfermé.
Oh.
Et j'ignore ce qu'il sera fait de moi. Oh, point de désespoir, point de clé. Remettez-vous de votre trouble, je me charge du reste. Demain, je pars pour la campagne. Pendant mon absence, allez trouver 2 religieux que je vais vous nommer. »
Et il lui nomma les 2 religieux.
« Demandez à leur parler en secret. Seul avec eux, jetez-vous à leurs genoux, implorez leur secours, implorez leur justice, implorez leur médiation auprès du général sur l'esprit duquel vous savez qu'ils peuvent beaucoup. Pleurez, sanglotez, arrachez-vous les cheveux. Et en pleurant, sanglotant, vous arrachant les cheveux, racontez-leur toute notre histoire et la racontez de la manière la plus propre à inspirer de la commisération pour vous, de l'horreur pour moi. »
Oh, comment, monsieur, je leur dirai?
Oui! Vous leur direz qui vous êtes, à qui vous appartenez, que je vous ai séduite au tribunal de la confession, enlevée d'entre les bras de vos parents et reléguée dans la maison où vous êtes. Dites qu'après vous avoir ravi l'honneur et précipité dans le crime, je vous ai abandonné à la misère. Dites que vous ne savez plus que devenir.
Mais père,
je... Exécutez ce que je vous prescris et ce qui me reste à vous prescrire. Vous résolvez votre perte et la mienne. Ces 2 moines ne manqueront pas de vous plaindre, de vous assurer de leur assistance et de vous demander un second rendez-vous que vous leur accorderez. Ils s'informeront de vous et de vos parents. Et comme vous ne leur aurez rien dit qui ne soit vrai, vous ne pouvez leur devenir suspect. Après cette première et leur seconde entrevue, je vous prescrirai ce que vous aurez à faire à la troisième. Songez seulement à bien jouer votre rôle.
Tout se passa comme Hudson l'avait imaginé. Il fit un second voyage, les 2 commissaires en instruisirent la jeune fille, elle revint dans la maison. Ils lui redemandèrent le récit de sa malheureuse histoire. Tandis qu'elle racontait à l'un, l'autre prenait des notes sur ses tablettes. Ils gémirent sur son sort, l'instruisirent de la désolation de ses parents qui n'était que trop réelle, et lui promirent sûreté pour sa personne et prompte vengeance de son séducteur, mais à la condition qu'elle signerait sa déclaration. Cette proposition parut d'abord la révolter. On insista, elle consentit. Il n'était plus question que du jour, de l'heure et de l'endroit où se dresserait cet acte qui demandait du temps et de la commodité. Cette fille et les commissaires se séparèrent, s'accordant réciproquement du temps pour lever ses difficultés. Dès le jour même, Hudson fut informé de ce qui s'était passé.
« J'apprendrai à ces blancs becs-là à quel homme ils ont affaire. Prenez la plume et donnez-leur rendez-vous dans l'endroit que je vais vous indiquer. Ce rendez-vous leur conviendra, j'en suis sûr. La maison est nette et la femme qui l'occupe jouit dans son voisinage et parmi les autres locataires de la meilleure réputation. »
Cette femme était cependant une de ces intrigantes secrètes qui jouent la dévotion, qui s'insinuent dans les meilleures maisons, qui ont le ton doux, affectueux, patelin, et qui surprennent la confiance des mères et des filles pour les amener au désordre. C'était l'usage qu'Hudson faisait de celle-ci. C'était sa marcheuse. Mit-il, ne mit-il pas l'intrigante dans son secret? C'est ce que j'ignore. En effet, les deux envoyés du général acceptent le rendez-vous. Les y voilà avec la jeune fille. On commençait à verbaliser lorsque...
À qui en veut-on?
Nous en voulons à la dame Simion.
C'était le nom de l'intrigante.
Vous êtes à sa porte.
Messieurs, répondrai-je?
Répondez.
Ouvrirai-je?
Ouvrez.
Ah, deux religieux en tête à tête avec une fille. Elle n'est pas mal. Impossible de se méprendre à son état et à ce qu'elle peut avoir à démêler avec de jeunes moines.
Monsieur le commissaire, mais nous protestons.
Oui, grâce, monsieur le commissaire.
J'alimentons, la belle.
Monsieur, nous sommes en lieu honnête.
Oui, oui, en lieu honnête. Honnête, la dame Simion.
Nous sommes venus pour affaires importantes.
L'affaire importante qui conduit ici, nous la connaissons. Mademoiselle, parlez.
Monsieur le commissaire, ce que ces messieurs vous assurent est la pure vérité.
Et pourquoi mes pères fréquentaient ces endroits et ces créatures?
Monsieur le commissaire.
Cependant, ce ne sera rien. J'ai ordre de la police de vous déposer entre les mains de votre supérieur, qui est un galant homme, indulgent. Il ne mettra pas à cela plus d'importance que cela ne vaut. Alors, qu'on les conduise jusqu'au fiacre qui les attend en bas et qu'on les présente au père Hudson.
Les voilà arrivés. On avertit le supérieur Hudson qui se fait attendre une demi-heure au moins afin de donner au scandale tout son éclat. Il paraît enfin. Le commissaire lui parle à l'oreille, le commissaire a l'air d'intercéder. Hudson de rejeter rudement sa prière. Enfin...
Je n'ai point de religieux dissolu dans ma maison. Ces gens-là sont deux étrangers qui me sont inconnus. Peut-être deux coquins déguisés dont vous pouvez faire tout ce qu'il vous plaira.
À ces mots, la porte se ferme. Le commissaire remonte dans la voiture et dit à nos deux pauvres diables plus morts que vifs...
J'y ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'aurais jamais cru le père Hudson si dur. Mais aussi pourquoi diable aller chez les filles?
Si celle avec laquelle vous nous avez trouvés en est une, ce n'est point le libertinage qui nous a menés chez elle.
Ah, mes pères! Et c'est un vieux commissaire que vous dites ça. Qui êtes-vous?
Nous sommes religieux. Et l'habit que nous portons est le nôtre.
Songez que demain, il faudra que votre affaire s'éclaircisse. Parlez vrai.
Nous avons dit vrai. Mais où allons-nous?
Au Petit Châtelet.
Au Petit Châtelet? En prison?
J'en suis désolé.
Ce fut en effet là que Richard et son compagnon furent déposés. Mais le dessein d'Hudson n'était pas de les y laisser. Il était monté en chaise-poste, il était arrivé à Versailles, il parlait au ministre, il lui traduisait cette affaire comme il lui convenait.
Voilà, monseigneur, à quoi l'on s'expose lorsqu'on introduit la réforme dans une maison dissolue et qu'on en chasse les hérétiques. Un moment plus tard, j'étais perdu, j'étais déshonoré. La persécution n'en restera pas là. Toutes les horreurs dont il est possible de noircir un homme de bien, vous les entendrez. Mais j'espère, monseigneur, que vous vous rappellerez que notre général...
Je sais. Et je vous plains. Les services que vous avez rendus à l'Église et à votre ordre ne seront point oubliés. Les élus du Seigneur ont de tous les temps été exposés à des disgrâces. Ils ont su les supporter. Il faut savoir imiter leur courage. Compter sur les bienfaits et la protection du roi. Le moine... Les moines, je l'ai été et j'ai connu par expérience ce dont ils sont capables.
Si le bonheur de l'Église et de l'État voulait que votre éminence me survécût, je persévérerai sans crainte.
Je ne tarderai pas à vous tirer de là. Allez.
Non, monseigneur, non. Je ne m'éloignerai pas sans un ordre exprès qui délivre ces deux mauvais religieux.
Je vois que l'honneur de la religion et de votre habit vous touche au point d'oublier les injures personnelles. Cela est tout à fait chrétien. Et j'en suis édifié sans en être surpris d'un homme tel que vous. Cette affaire n'aura point d'éclat.
Ah, monseigneur, vous me comblez de joie. Dans ce moment, c'est tout ce que je redoutais.
Bien, je vais travailler à cela.
Dès le soir même, Hudson eut l'ordre d'élargissement. Et le lendemain, Richard et son compagnon, dès la pointe du jour, étaient à 20 lieues de Paris, sous la conduite d'un exempt qui les remit dans la maison professe. Il était aussi porteur d'une lettre qui enjoignait au général de cesser de pareilles menées et d'imposer la peine claustrale à nos deux religieux. Cette aventure jeta la consternation parmi les ennemis d'Hudson. Il n'y avait pas un moine dans sa maison que son regard ne fît trembler. Quelques mois après, il fut pourvu d'une riche abbaye. Le général en conçut un dépit mortel. Il était vieux et il y avait tout à craindre que l'abbé Hudson ne lui succédât. Il aimait tendrement Richard, il l'engagea à quitter l'abbaye. Richard suivit ce conseil et revint dans la maison paternelle qui n'était pas éloignée de l'abbaye possédée par Hudson. Hudson et Richard fréquentant les mêmes maisons, il était impossible qu'ils ne se rencontrassent pas, et en effet, ils se rencontrèrent. Richard était un jour chez la dame d'un château situé entre Châlons et Saint-Dizier, mais plus près de Saint-Dizier que de Châlons, et à une portée de fusil de l'abbaye d'Hudson.
Richard, nous avons ici votre ancien prieur. Il est très aimable. Mais au fond, quel homme est-ce ?
Le meilleur des amis et le plus dangereux des ennemis.
Est-ce que vous ne seriez pas tenté de le voir ?
Nullement.
Vous le verrez malgré que vous en ayez, car le voici.
Ah, oh, c'est vous, mon cher Richard. Vous avez voulu me perdre, je vous le pardonne. Pardonnez-moi votre visite au petit Châtelet et n'y pensons plus.
Convenez, monsieur l'abbé, que vous étiez un grand vaurien.
Cela se peut.
Que si l'on vous avait rendu justice, la visite au Châtelet, ce n'est pas moi, c'est vous qui l'auriez faite.
Cela se peut. C'est, je crois, au péril que je courus alors, que je dois mes nouvelles mœurs. Ah, mon cher Richard, combien cela m'a fait réfléchir et que je suis changé.
Cette femme avec laquelle vous êtes venu est charmante.
Je n'ai plus Dieu pour ces attraits-là.
Quelle taille!
Cela m'est devenu bien indifférent.
Quel embonpoint !
On revient tôt ou tard d'un plaisir qu'on ne prend que sur le fait d'un toit, au péril à chaque mouvement de se rompre le cou.
Elle a les plus belles mains du monde.
J'ai renoncé à l'usage de ces mains-là. Une tête bien faite revient à l'esprit de son état, au seul vrai bonheur.
Et ses yeux, qu'elle tourne sur vous à la dérobée. Convenez que, vous qui êtes connaisseur, vous n'en avez guère attaché de plus brillant et de plus doux. Quelle grâce, quelle légèreté, quelle noblesse dans sa démarche, dans son maintien.
Je ne pense plus à ses vanités. Je lis l'Écriture, je médite les Pères.
Et de temps en temps, les perfections de cette dame. Demeure-t-elle loin du Mont-Saint ? Son époux est-il jeune ?
Mon cher Richard, vous vous foutez de moi et vous avez raison.
Mon cher auditeur, pardonnez-moi la propriété de cette expression et convenez qu'ici, comme dans une infinité de bons contes, le mot « honnête » gâterait tout.
Et Jacques et son maître ?
Jacques, son maître, le marquis des Arcis et Richard se rejoignirent au château. On dîna bien et sur le soir, on se sépara avec promesse de se revoir.
Monsieur, aimez-vous les tableaux ?
Oui, mais en récit, car en couleur et sur la toile, quoique j'en juge aussi décidément qu'un amateur, je t'avouerai que je n'y entends rien du tout, que je serais bien embarrassé de distinguer une école d'une autre. qu'on me donnerait un Boucher pour un Rubens ou pour un Raphaël, que je prendrais une mauvaise copie pour un sublime original, que j'apprécierais 1000 écus, une croûte de 6 francs et 6 francs un morceau de 1000 écus. Et que je ne me suis jamais pourvu qu'au pont Notre-Dame, chez un certain Tremblin, qui était, de mon temps, la ressource de la misère ou du libertinage, et la ruine du talent des jeunes élèves devant l'eau.
Et comment cela?
Qu'est-ce que cela te fait? Raconte-moi ton tableau et
sois bref, car je tombe de sommeil.
Bien, placez-vous devant la Fontaine des Innocents ou proche de la Porte Saint-Denis. Mais ce sont deux accessoires qui enrichiront la composition.
M'y voilà.
Et voyez au milieu de la rue un fiacre, la soupente cassée et renversée sur le côté.
Et je le vois.
Un moine et 2 filles en sont sortis. Le moine s'enfuit à toutes jambes. Le cocher se hâte de descendre de son siège. Un caniche du fiacre s'est mis à la poursuite du moine et l'a saisi par sa jaquette. Le moine fait tous ses efforts pour se débarrasser du chien. Une des filles, débraillée, la gorge découverte, se tient les côtés à force de rire. L'autre fille, qui s'est fait une bosse au front, est appuyée contre la portière et se presse la tête à 2 mains. Cependant, la populace s'est attroupée. Les polissons accourent et poussent des cris. Les marchands et les marchandes ont bordé le seuil de leur boutique et d'autres spectateurs sont à leur fenêtre.
Oh, comment diable, Jacques, ta composition est bien ordonnée, riche, plaisante, variée et pleine de mouvements. À notre retour à Paris, porte ce sujet à Fragonard et tu verras ce qu'il en saura faire.
Après ce que vous m'avez confessé de vos lumières en peinture, je puis accepter votre éloge sans baisser les yeux.
Je gage que c'est une désaventure de l'abbé Hudson.
Il est vrai.
Auditeur, tandis que ces bonnes gens dorment, j'aurais une petite question à vous proposer à discuter sur votre oreiller. C'est ce qu'aurait été l'enfant né de l'abbé Hudson et de la dame de la Pommeraye.
Peut-être un honnête homme.
Peut-être un sublime coquin. Vous me direz cela demain matin. Ce matin, le voilà venu, et nos voyageurs séparés. Car le marquis des Arcis ne suivait plus la même route que Jacques et son maître.
Nous allons donc reprendre la suite des amours de Jacques.
Je l'espère. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le maître sait l'heure qu'il est, qu'il a pris sa prise de tabac et qu'il a dit à Jacques...
Eh bien, Jacques, tes amours.
N'est-ce pas le diable ? Du matin au soir, ils disent du mal de la vie et ils ne peuvent se résoudre à la quitter. Serait-ce que la vie présente n'est pas, à tout prendre, une si mauvaise chose ou qu'ils en craignent une pire à venir?
C'est l'un et l'autre. À propos, Jacques, crois-tu à la vie à venir?
Je n'y crois ni décrois, je n'y pense pas. Je jouis de mon mieux de celle qui nous a été accordée en avancement d'Oirie.
Pour moi, je me regarde comme en chrysalide. Et j'aime à me persuader que le papillon, ou mon âme, venant un jour à percer sa coque, s'envolera à la justice divine.
Ah, votre image est charmante.
Elle n'est pas de moi. Je l'ai lu, je crois, dans un poète italien appelé Dante, qui a fait un ouvrage intitulé « La comédie de l'enfer, du purgatoire et du paradis
». Voilà un singulier sujet de comédie.
Il y a, pardieu, de belles choses, surtout dans son enfer. Il enferme les hérésiarques dans des tombeaux de feu, dont la flamme s'échappe et porte leur ravage au loin. Les ingrats dans des niches, où ils versent des larmes qui se glacent sur leur visage. Et les paresseux dans d'autres niches. Et il dit de ces derniers que le sang s'échappe de leurs veines et qu'il est recueilli par des vers dédaigneux. Oh. Mais à quel propos t'as sorti contre notre mépris d'une vie que nous craignons de perdre?
À propos de ce que le secrétaire du marquis des Arcis m'a raconté du mari de la jolie femme, évoqué dans les dernières minutes de notre dernière émission. Celle qui tournait à la dérobée les yeux sur l'abbé Hudson.
Elle est veuve.
Elle a perdu son mari dans un voyage qu'elle a fait à Paris. Et le diable d'homme ne voulait pas entendre parler de sacrement. Ce fut la dame du château où Richard rencontra Hudson qu'on chargea de le réconcilier avec le Béguin.
Que veux-tu dire avec ton Béguin?
Le béguin et la coiffure qu'on met aux enfants nouveau-nés.
Je t'entends. Et comment s'y prit-elle pour l'embéguiner?
On fit cercle autour du feu. Le médecin, après avoir tâté le pouls du malade, qu'il trouva bien bas, vint s'asseoir à côté des autres. La conversation s'engagea alors entre la dame, le docteur et quelques-uns des autres assistants, comme je vais vous la rendre.
Eh bien, docteur, nous direz-vous des nouvelles de Madame de Parme?
Je sors d'une maison où l'on m'a assuré qu'elle était si mal qu'on n'en espérait plus rien.
Cette princesse a toujours donné des marques de piété. Aussitôt qu'elle s'est sentie en danger, elle a demandé à se confesser et à recevoir les sacrements.
Le curé de Saint-Roch lui porte aujourd'hui une relique à Versailles, mais elle arrivera trop tard.
Madame Infante n'est pas la seule qui donne de ces exemples. Monsieur le duc de Chevreuse, qui a été bien malade, n'a pas attendu qu'on lui proposât les sacrements. Il les a appelés de lui-même. Ce qui a fait grand plaisir à sa famille.
Il est beaucoup mieux.
Il est certain que cela ne fait pas mourir. Au contraire. En vérité, dès qu'il y a du danger, on devrait satisfaire à ces devoirs-là. Les malades ne conçoivent pas, apparemment, combien il est dur pour ceux qui les entourent, et combien, cependant, il est indispensable de leur en faire la proposition.
Je sors de chez un malade qui me dit, il y a 2 jours...
Docteur, comment me trouvez-vous?
Monsieur, la fièvre est forte, mais les redoublements fréquents.
Mais croyez-vous qu'il en survienne un bientôt?
Non, je le crains seulement pour ce soir.
Cela étant, je vais faire avertir un certain homme avec lequel j'ai une petite affaire particulière, afin de la terminer pendant que j'ai encore toute ma tête.
Il se confessa, reçut tous ses sacrements. Je revins le soir, point de redoublement. Hier, il était mieux. Aujourd'hui, il est hors d'affaire. J'ai vu beaucoup de fois dans le courant de ma pratique cet effet-là des sacrements.
Apportez-moi mon poulet.
On le lui serre. Il veut le couper et n'en a pas la force. On lui en dépaisse l'aile en petits morceaux.
Du pain.
Se jette dessus. Fait des efforts pour en mâcher une bouchée qu'il ne saurait avaler et qu'il le rend dans sa serviette.
Du vin pur.
Il y mouille les bords de ses lèvres.
Je me porte bien.
Oui, mais une demi-heure après, il n'était plus.
Cette dame s'y était pourtant bien prise. Et tes amours?
Et la condition que vous avez acceptée?
J'entends. Tu es installé au château de Déglan et la vieille commissionnaire Jeanne a ordonné à sa jeune fille Denise de te visiter 4 fois par jour et de te soigner. Mais avant d'aller en avant, dis-moi, Denise avait-elle son pucelage?
Je le crois.
Et toi?
Le mien, il y avait beau jour qu'il courait dans les champs.
Tu n'en étais donc pas à tes premières amours?
Pourquoi donc?
C'est qu'on aime celle à qui on le donne, comme on est aimé de celle à qui on le ravit.
Quelquefois oui, quelquefois non.
Et comment le perdis-tu?
Je ne le perdis pas, je le troquais bel et bien.
Dis-moi un mot de ce troc-là.
Ce sera le premier chapitre de Saint-Luc, une kyrielle de génie à ne point finir, depuis la première jusqu'à Denise la dernière.
Qui crut la voir et qui ne l'eut point.
Et avant Denise, les 2 voisines de notre chaumière.
Qui crurent la voir et qui ne l'eurent point.
Non.
Manquer un pucelage à 2, cela n'est pas trop adroit.
Tenez, mon maître, je devine au coin de votre lèvre droite qui se relève et à votre narine gauche qui se crispe qu'il vaut autant que je fasse la chose de bonne grâce que d'en être prié. D'autant que je sens augmenter mon mal de gorge, que la suite de mes amours sera longue et que je n'ai guère de courage que pour 1 ou 2 petits comptes.
Si Jacques voulait me faire un grand plaisir...
Comment s'y prendrait-il?
Il débuterait par la perte de son pucelage. Veux-tu que je te le dise? J'ai toujours été friand du récit de ce grand événement.
Ah, et pourquoi, s'il vous plaît?
C'est que, de tous ceux du même genre, c'est le seul qui soit piquant. Les autres ne sont que d'insipides et communes répétitions. De tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûr que le confesseur n'est attentif qu'à celui-là.
Oh, mon maître, je vois que vous avez la tête corrompue et qu'à votre agonie, le diable pourrait bien se montrer à vous sous la même forme de parenthèse qu'à Ferragus.
Oh, cela se peut. Mais tu fus déniaisé, je gage, par quelque vieille impudique de ton village.
Ne gagez pas, vous perdriez.
Thank you.
C'était Jacques le fataliste et son maître, de Diderot. Adaptation radiophonique de Roger Pilaudin. Avec Jean-Pierre Cassel, Jacques. Jean-Roger Cossimon, son maître. Renaud Marie, le marquis des Arcis. Jacques Monod, Hudson. Et Roger Brett, Jean-Clarence, Liliane Godet, Gaëtan Jeur, Roger Carl, Edith Lauria, Elsa Manet et Jean Péméja. Avec Jacques Duménil, Diderot. Bruitage Robert Moufra, chef opérateur du son Francis Granal, collaboration technique Yann Parentoen, assistant de production Pierre Cazaret. Réalisation Henri Soubéran.
Ce sixième épisode a été diffusé pour la première fois sur RTF Promotion le 18 novembre 1963. À suivre et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.